Chapitre 21. À partir de ce jour, Cécilia et Marie se mirent à coudre avec frénésie. « Voici des brandebourgs pour aller sur ta nouvelle veste, Daniel. Tu seras beau comme un officier porte-enseigne quand nous aurons fini. Tiens-toi droit, que je puisse prendre tes mesures. Remarque, maman dit que tu as grandi tellement vite qu'il faut laisser de la marge à ton ourlet de pantalon si on veut qu'il fasse de l'usage. » Il fallut s'occuper aussi de mon voyage. Les Marlots imaginaient que mon oncle aurait son mot à dire sur les modalités. Mais dès qu'il avait su que, tout ayant été vendu, il n'avait pas besoin d'envoyer une charrette, plus aucune lettre n'arriva de Hyde Gates. Aussi le docteur et son épouse prirent-ils eux-mêmes des dispositions. Le docteur dénicha au fin fond du grenier le vieux sac de voyage en toile qu'il avait quand il faisait ses études. Je regardais Mrs. Marlowe y déposer soigneusement, entre des couches de papier de soie, les vêtements que ses filles et elle avaient achetés ou confectionnés pour moi. Je l'observais encore lorsqu'elle bourra mes nouveaux souliers avec des boules de papier journal. Mon pied gauche déclarait « un ministre du nouveau gouvernement souffrant », tandis que mon pied droit s'exclamait « inauguration du grand théâtre ». Puis vint la dernière soirée, pendant laquelle tous les habitants de cette maison me serrèrent maintes fois dans leurs bras, me souhaitant bonne chance pour le lendemain. 2 heures avant l'aube, le docteur vint me réveiller et nous prîmes tous deux un petit déjeuner sans entrain. Nous allâmes à pied à la gare de chemin de fer et attendîmes dans la triste lumière de l'aube de voir arriver le train qui s'arrêta bientôt à notre hauteur dans un panache de fumée. Le docteur m'étreignit la main puis me poussa dans le wagon après m'avoir chaleureusement serré dans ses bras une dernière fois. La porte claqua derrière moi. Le chef de gare émit un coup de sifflet long et strident. Et enfin, tel un paquet bien ficelé n'ayant aucune idée de l'endroit où il va, du pourquoi de son voyage, moi, Daniel Thomas Cunningham, je fus précipité dans le vaste monde. Et quel monde ! Appuyant ma tête contre la vitre, je regardais vaches et moutons défiler dans le demi-jour. De pâles collines déroulaient l'une après l'autre leur rondeur. De temps en temps, le train s'arrêtait dans un bruit de ferraille pour laisser des passagers descendre ou monter. Sous la surveillance du chef de train, je changeai 2 fois, et arrivé à Londres, un ami du docteur Marlowe me fit traverser la capitale en taxi. « Quel dommage que vous ne puissiez faire halte pour visiter la ville. Mais vous êtes jeune encore, vous avez tout le temps, plus tard. » À la gare Victoria, il hissa mon sac de voyage dans le porte-bagages et glissa dans ma main sa carte de visite. « Si jamais vous revenez un jour à Londres, faites-moi signe. Nous irons visiter les monuments que nous n'avons pu voir aujourd'hui. Bon, avez-vous votre billet ?» Je tapotai la poche de ma veste. « Et quelqu'un vous attend-il sur place ? On a envoyé l'heure d'arrivée de mon train. Avez-vous de l'argent ?» Oui, le docteur a insisté pour me donner de quoi venir. Eh bien, moi aussi, je vais insister. Tenez. Je voulus refuser son cadeau, mais il n'en était pas question. Non, non, vous serez étonné de voir que quelques shillings dans la poche peuvent s'avérer bien utiles pour un garçon de votre âge. Non, vraiment, je ne... Mais il partit, ne me laissant d'autre choix que d'empocher l'argent et de lancer un merci à sa silhouette qui disparaissait dans la foule. Je retournai m'asseoir à la fenêtre de mon compartiment, d'où je contemplais des banlieues noires de suie, des ponts de ferraille, avant de traverser une campagne riante, couverte de forêts parsemées de coquets villages. J'eus encore un changement. À Hamford, j'attendais une demi-heure, comme on me l'avait indiqué, jusqu'à ce qu'un train court se range le long du quai. J'y grimpais. Il s'arrêta à plusieurs endroits, parfois le long d'un simple quai en latte de bois, où la voie ferrée traversait une route, ou bien passait devant quelques chaumières. Tout autour s'étendait maintenant un paysage plat et crayeux, et du haut du ciel immense, le soleil déversait une lumière blanche sur les contours des collines. « Est-ce que ce sont les Downs ?» demandai-je à la dame assise en face de moi. Elle me fit signe que oui. Nous étions donc presque arrivés. Le train me surprit en passant dans un court tunnel, puis un second. « Tivoli Down et Ealing Wharf !» annonça le chef de train. Je pris mon sac et descendis du wagon. Avant même d'avoir posé les pieds sur le quai, je me sentis bizarrement mal à l'aise. Le monde clair et brillant qui m'entourait s'assombrit tout à coup, comme si un énorme oiseau malveillant volait au-dessus de moi. Je m'entendis marmonner mon pressentiment. C'était une funeste erreur, au moment où des ombres roulaient sur le paysage. Mais levant la tête, je vis qu'il ne s'agissait pas d'un signe du destin pour m'inciter à remonter immédiatement dans le train et fuir cet endroit au plus vite. Non. Simplement un nuage passait devant le soleil. D'un bond, je me retrouvai sur un chemin chaotique. En dépit de la promesse de mon oncle, il n'y avait personne pour m'accueillir. Alors je m'assis sur mon sac et j'attendis. Bientôt je vis arriver un cheval et une carriole qui soulevaient une poussière blanche sur son passage. Je me levai d'un bond, mais le cocher se contenta de m'adresser un signe de tête en passant, et finalement je me rassis sur mon sac, me demandant si j'arriverais à destination avant la nuit. J'attendis encore, mais à présent je craignais que le capitaine Severn, qui n'avait appris que très récemment mon existence, ne m'eût déjà oublié, ou qu'il se fût trompé de jour. Comme je n'avais pas l'habitude de faire quoi que ce soit par moi-même, je restai assis là, empêtré dans mon apitoiement et mon angoisse, jusqu'au moment où je me posais cette question. Que ferait Sophie dans une telle situation? La réponse me vint aussitôt. Elle ne resterait pas là une minute de plus, à redouter le pire et à lire de mauvais présages dans le moindre nuage. Elle hausserait les épaules et se secourait et irait chercher quelqu'un qui puisse lui indiquer le chemin. Avais-je besoin de Sophie à mes côtés pour suivre son exemple? Non. Donc, dans le jour qui baissait, je me mis en route pour Illingworth, qui, à première vue, ne comptait guère plus qu'une église de pierre et quelques jolies maisons rassemblées autour d'une place. Je vis la poste où travaillait jadis la personne qui avait renseigné le docteur Marlowe. J'en éprouvai un nouvel accès de rancœur à l'égard de cette informatrice si zélée à cause de laquelle j'avais entrepris ce maudit voyage. Vu l'heure tardive, la poste était fermée, comme toutes les autres maisons d'ailleurs. En revanche, je vis s'avancer vers moi, au milieu de l'unique rue du village, deux femmes se ressemblant comme deux gouttes d'eau, mais d'âge très différent, d'où je conclus qu'il devait s'agir d'une mère et de sa fille. Lorsqu'elles arrivèrent à ma hauteur, je demandai mon chemin. « Highgate ?» Elles échangèrent un regard inquiet et embarrassé. Voyait-elle en moi un fauteur de trouble? Pourtant, tandis que la fille continuait de me regarder fixement, la mère me répéta plusieurs fois qu'il fallait suivre tout droit la route sortant d'Illingworth, gravir la côte, puis prendre le chemin de terre indiquant Farley Down. Surtout, restez bien du côté sud du bois. Suivez le sentier qui le contourne. Vous reconnaîtrez la maison aux deux aigles en pierre sur les piliers du portail. Je me mis en route, non sans les avoir remerciés. Mais j'avais vu si souvent Mrs. Marlowe secouer désespérément la tête en tournant la map-monde que je me pensais incapable de reconnaître le sud, tout comme l'ouest, l'est ou le nord. Derrière moi, le soleil disparaissait dans une lueur rougeâtre, et je savais qu'il se couchait à l'ouest. Je me dis que si j'arrivais à me repérer maintenant, j'aurais moins de mal à trouver le chemin qui tournait et virait. Je me retournai donc. Effectivement, le soleil était là, énorme boule rouge-feu, en train de disparaître derrière la plus lointaine colline. Mais je vis aussi les deux femmes qui n'avaient pas bougé de l'endroit où je les avais laissées et continuaient de m'observer comme si elles n'avaient jamais vu de leur vie un garçon quitter leur village à pied.